Les Canuts, première partie, chapitre 3. Une foule encombrait la place de la Comédie. Des familles d'ouvriers, tournant et retournant dans un continuel remous, flânaient gaiement devant la façade blanche du grand théâtre, brillamment éclairé. C'était des éclats de voix d'hommes, des rires de femmes, dominant le brouhaha des conversations chantantes et traînardes. Un grand gaillard, tirant à son bras une jeune femme palote, s'avança jusqu'au degré du théâtre, parut hésiter, puis, regardant sous le péristyle la longue queue des spectateurs attardés, qui se déroulait encore entre les rangées de barrières.
« Allons-y »
dit-il brusquement.
« Le tarif est voté. Vive la joie !»«
Tu n'y penses pas, Buisson !» fit la jeune femme résistant. « Et la petite ?»«
La petite ? Et la grand-mère, donc ?»«
Allons, viens !» Il l'entraîna, et tous deux disparurent au milieu de la cohue. Dans le vestibule du théâtre, la cloche sonnait pour le lever du rideau. Monsieur Victor Jacquemin fendit la foule dans la direction de l'hôtel de ville, prit la rue Puy-Gaillot, pleine de monde, et arriva place des Terreaux. Là aussi, l'affluence était grande. Des groupes circulaient, se croisaient, se confondaient dans la demi-obscurité, troués par les feux de 3 ou 4 falots portés au bout d'un bâton, et que des jeunes gens suivaient en chantant. Il y avait dans l'air une immense joie qui éclatait, par intervalles, avec des cris de
« Vive le tarif !» « Vive les autorités !»
Le fabricant fit lentement le tour de la place. Cette belle journée d'octobre finissait sans brouillard, douce et tiède, comme un soir de juin. Arrivé près de l'hôtel de Milan, M. Victor Jacquemin entra au bureau de tabac, alluma un cigare d'un sou, flâna encore un instant, de long en large, examinant le mouvement de cette population joyeuse. Puis, il s'approcha du café grand, dont l'éclairage projetait au dehors une colonne de lumière, glissa un œil entre les rideaux de serge verte qui garnissaient les vitres à hauteur d'homme, et se décida à entrer. Il avait aperçu, à leur place habituelle, faisant leur partie de tric-trac, M. Argentiol, fabricant de satin, et M. Palia de la grosse maison de soierie pour parapluie, Palia frère et compagnie.
« Monsieur Jacquemin !» fit M. Palia levant la tête. « Quel hasard de vous voir, mon cher !»
Son sourire à fossette d'homme gras et rose resta sur son visage, encadré d'un toupet grisonnant, à la Louis-Philippe, et de favoris poivre et sel taillés avec un soin méticuleux.
« Comment allez-vous »
reprit-il avec une politesse empressée.
« Mettez-vous donc là !»
M. Argentiol se contenta de serrer la main du nouveau venu, se retira pour le laisser passer du côté du mur à la place que lui offrait son partenaire, et, montrant ses dents blanches dans sa figure cuivrée, lui dit de sa voix rauque de méridional
« Je sais d'où vous venez. »«
Oh, je n'ai rien à vous cacher, »
répondit M. Jacquemin. « Bonhomme. »«
Je viens de faire un tour pour me rendre compte de l'impression produite sur les ouvriers par le vote du tarif. »«
Dieu, sont-ils contents ?»«
Oui, » reprit M. Argentiol. « C'est tout naturel, et vous êtes prêt à vous réjouir avec eux. »
« Mon Dieu, pourquoi pas ? » ?»«
Les commissions seront plus dures, sans doute, mais s'il doit en résulter pour nous de meilleurs rapports avec l'ouvrier, le sacrifice qu'on fera d'une part ne sera pas sans compensation. »«
Enfin, vous approuvez le tarif ? » répliqua sèchement M. Argensiol. « Comme Palia, cela vous regarde !»
M. Jacquemin venait de se faire servir une demi-tasse, et, comme ses voisins se disposaient à continuer leur partie, il reprit en sucrant son café. « Vous avouerez que la manifestation d'aujourd'hui s'est passée au milieu d'un ordre parfait, sans cri, sans provocation. Ils se sont réunis, soit à Bellecour, soit à place de la préfecture, dans le plus grand silence. Et lorsque certains délibérants de la préfecture ont paru craindre que la liberté des suffrages ne fût pas entière, un délégué des ouvriers s'est chargé de dissiper cette appréhension. Il est sorti, s'est montré sur la place, a demandé et obtenu l'attention, et a dit « Mes amis, on s'occupe de nos intérêts. Vous avez promis de ne pas entraver la discussion. Tout va bien. Retirez-vous. » Aussitôt, tous se sont dispersés dans un ordre merveilleux. Cédant à des influences qu'il s'était mal expliquées, M. Jacquemin s'était autrefois montré dur pour son frère Jean. Mais il tenait, par trop de liens, à cette population ouvrière dans laquelle il était né, à laquelle son vieux frère consacrait encore son dévouement d'honnête homme pour ne point plaider sa cause à l'occasion. Il avait accepté le tarif, sans en discuter le fort et le faible. Il l'avait fait pour Jean. Il sentait qu'il lui devait cette réparation, quoique celui-ci se fût entêté à ne plus le voir après son refus d'argent. Maintenant, il défendait les ouvriers pour justifier son adhésion au tarif. « Un ordre merveilleux, dites-vous ? » fit observer M. Palia du ton le plus courtois. « À mon sens, c'est l'ordre dans le désordre, car si cette population s'est conduite de manière à rendre difficile l'application de la loi sur les attroupements, elle n'en est pas moins organisée, ce qui est un péril pour l'ordre public. Vous les avez vus ? Les différents groupes, ralliés autour d'un drapeau, étaient commandés chacun par des chefs portant une baguette. L'acte de discipline même que vous venez de signaler montre combien leur organisation pourrait être dangereuse s'ils étaient mal conseillés. Sous le prétexte d'un tarif, sous les apparences d'une question industrielle à régler, des meneurs n'avaient qu'à préparer un soulèvement carliste ou républicain, et au moment où l'on s'y attendait le moins, les canuts, entraînés, promèneraient dans la ville le drapeau blanc ou le drapeau rouge. Les sinistres appréhensions de son gros confrère égayèrent fort M. Jacquemin. Reposant sa tasse dans la soucoupe et passant son mouchoir sur sa lèvre rasée, « Leur drapeau, dit-il, est le drapeau tricolore, mon cher monsieur Palia, le vôtre et le mien. Quant à l'esprit de cette population, nul ne la connaissait mieux que lui. Pas de quartier plus paisible que la Croix-Rousse. Jamais un crime, jamais une rixe. Le travail seul y faisait tapage. Les ouvriers en soi ne s'occupaient point de politique. Ils n'avaient pas même pris part à la Révolution de Juillet. Ce qui leur importait à eux, c'était la question des salaires. » À ce moment, une bande d'ouvriers, plus nombreux et plus excités, passa devant le café, faisant entendre les cris de « Vive le préfet ! Vive le tarif !» « Tenez, voilà les cris séditieux que leur font pousser leurs chefs !» ajouta M. Jacquemin, riant de l'à-propos. « Je souhaite qu'il n'en pousse jamais de plus factieux, » répondit M. Palia, saisissant son cornet de cuir. Les deux joueurs reprirent leur partie de tric-trac, jetant alternativement les dés sur le tablier, disposant les dames, marquant les points. Le cigare aux lèvres, M. Jacquemin promenait son regard dans la salle et suivait le manège des garçons qui servaient les consommateurs, allant du comptoir, où trônait le patron, son bonnet grec sur la tête, à la porte, qu'ils ouvraient lorsqu'un client se préparait à sortir. Dans les coins, des habitués lisaient leurs journaux. Un vieux négociant retirait des affaires, assis devant une bavaroise, ses lunettes sur le nez, s'absorbait dans la lecture du précurseur. « Jadoub !» fit M. Palia, toujours onctueux. S'intéressant peu à la partie, M. Jacquemin regardait la fumée de son cigare monter le long des glaces jusqu'aux décorations du plafond encadrées de dorures en ovale. Il commençait à s'ennuyer, tirait sa montre. Lorsque la voix rauque de M. Argentiol annonça « As et 6 me valent 4 points. Patience, nous avons fini. » En 3 coups de dés, il eut gagné.
« Battu, Palia !» s'écria-t-il, montrant ses dents blanches. « Ha 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 ! Je vous l'avais prédit !»
Et, repoussant le jeu de tric-trac, en homme qui ne perd pas son temps, il dit sans transition.
« Ah, monsieur Jacquemin, vous croyez que le tarif apportera un remède au mal dont les ouvriers se plaignent ? Prenez garde. C'est la question la plus grave d'administration publique et d'économie industrielle. Je ne m'explique pas, pour ma part, comment, sous le régime de notre Constitution, l'autorité a osé signer une disposition stipulant que M. Paul donnera à son ouvrier Joseph tant de centimes par chaque aune ou tant de francs pour chaque pièce que fera celui-ci. Ce qui revient à dire, je veux que dans Lyon et ses faubourgs, on ne paie pas moins de 4 francs 50 centimes de façon l'aune de velours, qui est payée 35 sous à Krefeld, et pas moins de 55 centimes le gros de Naples, qui se fait à 30 centimes dans les campagnes des environs de Lyon. Non, je ne m'explique pas une mesure aussi peu raisonnable. Car voyons, votre tarif, obligatoire pour les fabricants, ne l'est pas pour les ouvriers, toujours maître d'accorder ou de refuser leur travail. Il est absolu, et cependant rien de plus variable que ces éléments. Tous les fabricants, donnent-ils donc à leurs ouvriers d'aussi belles matières les uns que les autres? Un tisseur ne gagne-t-il pas quelquefois plus à travailler au taux de 50 centimes l'aune pour une fabrique qui emploie des soies de première qualité qu'à faire péniblement de l'étoffe payée 60 centimes pour une autre maison qui emploie de la qualité inférieure? Le prix de la soie, la matière première, les besoins de la consommation, la qualité de l'étoffe, sa nouveauté, modifie le prix d'un tissu, et par conséquent, celui de la main-d'œuvre. Or, la valeur commerciale d'une même étoffe étant sujette à variation, le salaire de l'ouvrier ne peut être immuable. Votre règlement est absurde, absurde, vous dis-je,
acheva M. Argentiol avec un haussement d'épaules.
Et je le répète, je ne comprends pas que l'administration ait prêté les mains à une aussi fausse mesure.
J'admets pour ma part, reprit M. Jacquemin, très calme, tous vos principes d'économie politique. Mais c'est en m'appuyant sur ces principes mêmes que je défends la conduite de l'autorité dans cette affaire. Les tisseurs ont usé du droit naturel de se plaindre et d'exposer au grand jour leur situation. L'autorité n'a donc ni pu ni dû sévir contre eux. Elle avait le devoir, au contraire, de les accueillir et de leur promettre son intervention.
Mais à quoi servira le tarif, puisqu'il n'est pas rigoureusement exécutoire?
Il faut, du moins, reconnaître que la fixation des salaires arrêtée par la majorité des fabricants aura une grande autorité morale. C'est un résultat qui n'est pas à dédaigner. L'arrangement auquel a contribué l'administration peut éviter des désastres incalculables. La question ne touche pas seulement les tisseurs et les fabricants. Elle intéresse au plus haut point les propriétaires de maisons, qu'on ruinerait par l'exil forcé d'un grand nombre de chefs d'atelier et de tisseurs. Car les propriétaires sont obligés aussi de baser leur location sur le pied de leur prix d'achat ou de construction,
Vous êtes orfèvre, monsieur Josse,
ricana monsieur Argentiol. On voit bien que vous possédez un immeuble rue du Commerce.
Oui, mais je suis fabricant comme vous et, à mon avis, c'est traiter avec bien du mépris une question aussi grave que de conseiller à nos confrères de dire aux ouvriers « Il n'y a point de remède à vos souffrances. Vous ne pouvez plus vivre à Lyon. Eh bien, partez. Allez dans les campagnes. Ou si vous aimez mieux, en Allemagne ou en Suisse. Il y aura dans Lyon 1000 maisons vides. Que nous importe ?»
Mais quand le nombre des tisseurs lyonnais sera réduit des trois quarts, il faudra bien encore subir la loi que nous ferons à leur tour, ceux qui resteront,
ou mettre la clé sous la porte.
Monsieur Palia porta la main à sa haute cravate blanche et fit un signe d'assentiment. Il allait ouvrir la bouche lorsque monsieur Argentiol reprit.
« Vous êtes bien prévoyant, mon cher. En attendant, vous dites comme les ouvriers. Est-ce qu'une différence de 2 ou 3 sous par aune peut empêcher la vente d'une étoffe ?
Mais cela ne soutient pas la discussion. Depuis un an, vous devez le savoir, sans les Américains, la fabrique de Lyon eût été aux abois. Leurs immenses commandes ont tenu précisément au bas prix de la matière et de la main-d'œuvre. Et quand ils achetaient des milliers de pièces de gros de Naples à 3,15 francs ou 3,20 francs, s'ils avaient été obligés de payer cette qualité-là plus de 3,25 francs, ils n'en auraient pas acheté le quart. Et s'ils avaient pu l'obtenir à 3 francs, ils en auraient fait faire 3 fois autant. C'est donc une preuve irrécusable de l'influence que peut avoir sur l'écoulement des produits industriels une simple différence de 10 centimes.
Et les métiers mécaniques ?
Dans quelle catégorie les placez-vous ?
Il est vrai que, de concession en concession, si vous laissez faire les ouvriers mal intentionnés, il n'y aura probablement pas à s'en occuper.
L'autre jour, dans les groupes qui ont effrayé le quartier des Capucins, le nom de la sauvagère a été prononcé avec menace.
Reconnaissez donc que votre tarif est inapplicable et que vous êtes embarqué sur une mer sans rivage.
C'est égal, dit M. Palia perplexe. Il fallait compter aussi avec l'exaspération que le refus du tarif aurait pu produire parmi cette population affamée.
Ah, vous avez accepté le tarif par peur d'un soulèvement,
s'écria impétueusement M. Argentiol.
Mais précisément, vous allez les irriter au lieu de les calmer. La simple annonce du tarif a suffi pour faire rendre 500 000 francs de commission. Que sera-ce à présent qu'il est définitivement arrêté ? En somme, vous ne me contesterez pas la faculté de faire ou de ne pas faire travailler. Vous ne pouvez exiger de moi que je me ruine s'il y a perte pour moi à fabriquer au prix du tarif.
Vous ne le ferez pas non plus vous-même. Je vous sais trop intelligent en affaires pour en venir à cette extrémité.
Voyez-vous, il n'y a qu'un moyen de relever le prix de la main-d'œuvre. C'est de forcer la consommation en donnant l'étoffe la meilleure au plus bas prix possible, en faisant mieux que nos concurrents, sans cependant vendre plus cher.
Vous touchez là, reprit M. Palia de sa voix onctueuse et lente, à la grosse question de la concurrence étrangère.
Je l'ai dit bien souvent, notre fabrique, pour ne pas rester inférieure à celle de l'étranger, devrait se mettre avec elle en rapport d'amélioration et de perfectionnement. Car il y a des faits accomplis dont il faut tenir compte. À Zurich, à Bâle, à Krefeld, à Eberfeld, à Cologne, le nombre des métiers de soierie s'est décuplé depuis 15 ans. À Lyon, c'est tout au plus si nous pouvons dire qu'il s'est maintenu tel qu'il était. Avec la concurrence de ces fabriques étrangères, il est maintenant impossible que le taux de la main-d'œuvre remonte au point où il était chez nous à l'époque qui a précédé leur création. Or, que l'uni soit payé 50 ou 60 centimes l'aune, il est évident qu'un ouvrier ne peut se contenter de la moitié de la façon. Dès lors, si nous voulons conserver chez nous la fabrication des unis,
il faut que nous réformions notre outillage et qu'après avoir commencé par servir de modèle à nos rivaux, nous leur prenions à notre tour leurs moyens économiques de production. Ce sont là des vérités pénibles à dire, mais qu'il faut avoir le courage d'exprimer, puisque tout le monde paraît les ignorer aujourd'hui.
« Vous parlez d'or, mon cher Palia, »
répliqua M. Argentiol, maniant fiévreusement son cornet de trictrac.
« Mais vous perdez votre temps à prêcher aux Lyonnais. Ce sont des routiniers. Ils n'aviseront à réformer leur industrie que lorsqu'ils l'auront laissé périr. »
Sans relever cette boutade, M. Jacquemin constata que le nombre des fabricants lyonnais s'était singulièrement accru depuis 1824. À la concurrence étrangère, qui ne portait que sur les unis, étaient venus s'ajouter les désastres d'une concurrence intérieure, poussée jusqu'à ses dernières limites. Pour obtenir une commission, tel de ses confrères baissait ses prix, et par conséquent, les salaires. Depuis longtemps, on aurait dû chercher, avec les chefs d'atelier, un remède à cet état de choses, en faisant de mutuels sacrifices, en réduisant les exigences réciproques. Au contraire, on s'est aigri de part et d'autre, et certains fabricants avaient fourni aux ouvriers un prétexte plausible pour exiger plus qu'ils n'eussent obtenu par une composition amiable. La porte du café se rouvrit, et dans le bruit qui arrivait du dehors, les trois fabricants aperçurent la haute taille de M. Berthoux, coiffé d'un grand feutre et couvert d'un manteau à l'italienne.
« Ah, voilà ce cher artiste !» fit M. Palia lui tendant la main. « Ce bon M. Berthoux !»
Quand il l'eut fait asseoir, toujours affable et empressé, il le questionna. Que voulait-il prendre ?
« Bah, M. Berthoux ne savait trop. N'importe quoi, une cruche de bière. »
L'artiste avait posé son chapeau sur une chaise, rejeté en arrière, d'un mouvement de tête, son épaisse chevelure semée de fils d'argent, et, tout de suite, bourré sa pipe. Tandis que le garçon versait la bière dans le verre à facettes, M. Berthoux tourna vers M. Jacquemin ses yeux rieurs.
« Je viens du Grand Théâtre, » dit-il.
« Et que jouait-on ?
Comment ?
Vous ne savez pas ?
Mais vous ne savez donc rien.
Le mariage par dévouement, de M. Rosier de Lyon.
Rien que ça. Vous pensez que je n'allais pas manquer cette aubaine ?
Eh bien,
eh bien. »
Dès le premier acte, au fauteuil, on s'est fait une joie folle. Imaginez-vous une suite de scènes sans liaison, un bavardage insipide, des gens qui entrent et sortent sans qu'on sache pourquoi, et pas une idée neuve, pas un verre heureux. 10 fois le parterre embêté à crier « Assez, assez !» 10 fois j'ai supplié mes voisins de prendre patience jusqu'à la dernière scène du dernier acte, car j'étais curieux de surprendre au dénouement la pensée de l'auteur, si toutefois il en avait une. Mais le parterre, l'auteur et ma mauvaise chance en ont décidé autrement, et le rideau est tombé avant la fin de la pièce, me laissant pour mes frais d'attention.
« Pauvre Rosier !» fit M. Palia, épanouissant son sourire à fossette.
« Était-il dans la salle ?» demanda M. Jacquemin, caressant son menton. « Il n'a pas jugé à propos de se montrer. Je ne comprends pas que le directeur, M. Singier, se soit laissé imposer une pièce pareille. En tout cas, ajouta l'artiste, si elle ne vit pas, ce n'est pas qu'elle ait trop d'esprit.
Vous, dit M. Argentiol, vous jetez le vôtre par les fenêtres, comme les prodigues.
Il serait donc vrai de dire, reprit M. Palia, que les Lyonnais s'entendent mieux à faire une pièce d'étoffe qu'une pièce de théâtre.
Ah, mon cher, prenez garde, s'écria M. Jacquemin. Monsieur Argentiol va vous faire donner un conseil judiciaire.
C'est égal, ajouta M. Berthoux. Si j'avais eu à faire jouer une pièce, j'aurais voulu qu'on la donnât aujourd'hui.
Et il faut que le mariage de ce pauvre Rosier
soit terriblement mauvais pour avoir été sifflé ce soir par les ouvriers qui avaient envahi les petites places. Je vous assure qu'au début, ils étaient disposés à l'indulgence. Ils sont si contents.
Ils nous cassent la tête avec leur charme, fit M. Argentiol.
Oh, ici ce n'est rien, continua M. Berthoux. Il faut voir à la Croix-Rousse. Quand je suis descendu de chez moi, on illuminait de toutes parts, et dans chaque rue, on s'apprêtait à danser. Je n'ai pas souvenir de pareille allégresse depuis les grandes victoires de l'Empire et les Tédéum. Après tout, c'est bien naturel. Les pauvres gens étaient si misérables ces derniers temps.
Vous ne voyez que l'extérieur des choses, reprit M. Argentiol. Si vous étiez mieux au courant de la situation.
Sans doute, comme dessinateur, je ne suis mêlé qu'indirectement aux choses de la fabrique, et je ne puis en juger aussi bien que vous.
Alors, vous n'êtes pas satisfait du tarif ?
J'en suis tellement peu satisfait que je ne l'observerai pas, et que 104 fabricants, dont votre serviteur, ont signé une opposition à ce stupide règlement.
Le méridional continua avec une irritation croissante.
Le tarif est exécutoire à partir du 1er novembre.
Or, toutes les commandes qui s'exécutent en ce moment ont été à donner en septembre ou octobre, suivant le cours des prix de façon établie à cette époque. Il y a donc rétroactivité dans la mesure qu'on veut nous imposer. Et par là même, c'est une injustice d'exiger que l'ouvrage donné au métier avant le 1er novembre subisse une augmentation que le fabricant ne pouvait prévoir. Toutes les commissions en portefeuille sont également basées sur le taux de la main-d'œuvre du mois courant.
Eh bien, elles vont être en grande partie rendues ou refusées parce que l'augmentation imprévue des façons mettra les fabricants dans l'impossibilité de les exécuter au prix convenu avec les commissionnaires.
Toute cette marchandise dont nous aurons payé la matière première, la teinture et la main-d'œuvre dormira dans les rayons en attendant des acheteurs.
Et vous voudriez que j'aille de gaieté de cœur au-devant de la ruine ? Jamais de la vie !
M. Jacquemin et M. Palliat, soucieux, hochaient la tête. M. Berthoux ne plaisantait plus.
« Voilà qui est grave, » répondit-il.
« Mais cependant, puisqu'il s'agit d'un contrat d'honneur accepté par vos délégués... » Pour le coup, M. Argentiol ne se contint plus. Il jeta violemment dans le tablier son cornet qui rebondit et brisa une tasse. Puis il frappa du poing sur la table.
« C'était une tyrannie intolérable. Le consentement de leurs délégués,
mais il avait été arraché par la peur. Au reste, de qui tenaient-ils leur pouvoir, ces délégués ? D'une assemblée à laquelle beaucoup de fabricants avaient refusé de se rendre. Le tarif était une audacieuse atteinte portée à la liberté des transactions. Et où serait désormais la sécurité des fabricants ? S'il devenait loisible à l'autorité de prêter un complaisant appui aux exigences turbulentes des ouvriers. Et si des chefs de maison, qui livraient annuellement à la consommation intérieure et à l'exportation pour 80 millions de produits, n'avaient plus le droit de compter sur sa protection ?
À la table voisine, le vieux monsieur à la bavaroise avait abandonné la lecture de ses journaux et, les lunettes sur le front, regardait ébahi. L'artiste se leva pour en finir, ramenant son grand manteau sur ses épaules. « Monsieur, reprit-il, je ne puis discuter avec vous la question technique. Mais si beaucoup de vos confrères partagent vos idées de résistance, le gant est jeté. C'est un duel en permanence entre une classe riche, influente, mais peu nombreuse, et une autre. Pauvre, mais bien plus puissante par la force brutale qu'elle peut déployer dans un moment de désespoir. Oubliez-vous donc qu'il y a, tant à Lyon que dans les faubourgs, 30 000 compagnons et 8 000 chefs d'atelier, en face de 750 fabricants, dont un grand nombre ne vous suivront pas. Aussi, préparez-vous à la lutte, si vous ne voulez pas accepter les conditions du tarif. Bientôt, peut-être, vous n'aurez plus le choix.
« Monsieur, nous lutterons !»
s'écria M. Argentiol, debout.
« Nous lutterons s'il le faut. Nous ne sommes pas des lâches. Mais que diable ! Nous ne pouvons pas nous suicider !»
Il était 11 heures. Les consommateurs attardés s'étaient approchés pour entendre. « Allons, messieurs, calmez-vous, calmez-vous !» répétait M. Palliat, fort inquiet. « C'est un vrai scandale !» Tranquillement, l'artiste se coiffa de son grand feutre, serra la main de M. Palliat et, accompagné de M. Jacquemin, se dirigea vers la porte.
« Sans rancune ! »
cria-t-il du seuil avec un éclat de rire.
« N'est-ce pas, M. Argentiol ?»
Au coin de la place, M. Berthoux se sépara de M. Jacquemin et regagna son domicile, rue du Clos des Chartreux. Toute la Croix-Rousse était en liesse. Depuis la Grande Côte, les fenêtres étaient illuminées, les rues, éclairées d'une buée d'or, étaient pleines d'une foule joyeuse. Et, dans les cabarets, retentissaient des chansons, dont les refrains repris en chœur se terminaient par des bravos enthousiastes. Sur la place de la Croix, au Jardin des Plantes, au tapis, on avait organisé des danses. Tous les musiciens du quartier avaient été réquisitionnés. À 11 heures du soir, on dansait encore. La boutique de l'épicier Paclet avait été assiégée. Il avait vendu tous ses paquets de chandelles. Sa femme s'était cassé les doigts à fabriquer des lampions avec des pommes de terre. En face, les demoiselles Verchère s'égosillaient, ne sachant à qui répondre. Les gens encombraient le petit bureau de tabac, criant, chantant, ne s'en allant plus.
« Ne criez donc pas tant !»
répétait Mademoiselle Olympe.
« Et vive le tarif, nom de bleu !»«
4 sous à fumer ? Vous... Tenez, partez vite, vous empêchez d'entrer. » Dès 4 heures, chez les Jacquemin, la fricassée mijotait dans le sein doux brûlant, répandant une odeur d'oignon frit. La mère avait envoyé Zabé aux provisions. Depuis si longtemps, ils se privaient de tout qu'ils avaient voulu fêter convenablement le vote du tarif. « Tu sais, maman, il faut nous régaler, » avait dit le père. Puis, on avait couru inviter Madame Dénégris, ses enfants, les ouvrières. Ce serait sans façon, bien entendu. On ferait des matefins et des bugnes. Gaiement, Louise avait accepté l'invitation pour tout le monde. Elle était descendue à la cave, chercher du vin blanc, puis, avec Rose, elle avait mis le couvert sur une nappe blanche. La mère Jacquemin, ne voulant laisser à personne la corvée de la cuisine, se calcinait devant le poêle rouge. On avait envoyé Eugène acheter des marrons. Bientôt de retour, le gonne taquinait Zabé et jouait à cache-cache derrière les métiers et dans l'alcôve.
« Boss, boss » criait-il, « cherche-moi ! Ça y est !»
Dans la joie du grand événement, on ne songeait pas à le faire taire. Et Zabé, humilié de s'entendre ridiculiser en présence de Louise, n'osait pourtant pas se plaindre et se prêtait bonnement aux caprices d'Eugène. On se mit à table. Il y avait place pour 6, on était 9. Le petit gonne obtint la permission de rester debout. Il en profita pour continuer des gambades à travers l'atelier, renversant les banquettes, mangeant à plein poing des matefins brûlants qu'il attrapait au passage, et venant boire tantôt dans le verre de sa mère, tantôt dans celui de sa sœur ou dans celui de Rose. On ne s'occupait pas de lui. Le père, longuement, racontait la délibération des délégués, 23 fabricants et 23 chefs d'atelier, représentant les divers articles. La discussion sur les unis, les façonnés, les velours, l'affluence des ouvriers et des curieux attendant sur la place, et l'enthousiasme, le délire de tous, quand on avait fait connaître le résultat. « Vous voyez, père, que vous avez bien fait de ne pas reprendre de pièces, dit Marius. Vous regagnerez de reste le temps perdu. » Jacquemin reconnut qu'il avait eu raison. Mais le préfet était tout de même un brave homme d'avoir fait obtenir le tarif. Enfin, cette fois on serait tranquille et on pourrait travailler sans souci. Quand on avait du pain sur la table, ça vous donnait du cœur à l'ouvrage. Et, avec entrain,
« Allons, buvez donc, Madame Dénégris, » s'écriait-il. « Ce n'est pas toujours fête. Allons, Louise !»
Celle-ci protestait. Il voulait donc les griser. Rose rivalisait d'appétit avec Eugène. Très rouge, elle riait à tout propos et commençait à voir un peu trouble. Marius se conduisait en grand garçon de 25 ans. Il était gai, mais buvait peu et se montrait prévenant pour les invités. De temps en temps, Zabé, qui ne quittait pas Louise des yeux, la surprenait, regardant à la dérobée ce beau garçon qui avait l'air d'un homme, avec sa petite moustache noire et sa mine raisonnable. Et le pauvre compagnon, qui sollicitait en vain le même regard de la jeune fille, souffrait plus de cette indifférence que des insultes de gêne. À la fin, la mère, étouffée de chaleur, le visage brûlé, se leva et se dirigea vers une fenêtre qu'elle ouvrit. D'abord, on crut qu'elle rangeait les lampions que les ouvrières avaient préparés. Mais, comme elle restait immobile, Madame Dénégris s'approcha d'elle et lui demanda ce qu'elle avait. « Ah, il fait trop chaud !» répondit la mère d'une voix haletante. Et, reculant de quelques pas, elle s'affaissa sur une chaise. Une sueur froide lui perlait au visage. Louise courut chercher de l'eau d'arquebuse et lui en fit boire. Par la fenêtre ouverte, les cris de la rue montaient. Des gones faisaient partir des pétards. Eugène, tout à fait gris, sauta sur le dos rond de Zabé, lui criant « Bosse, bosse, jouons à la guerre. Tu seras mon cheval. Hu, hu !» D'une claque, Louise le fit descendre. Il n'avait donc pas de cœur de faire tant de bruit quand Madame Jacquemin était malade. Cependant, la mère consentit à se coucher sur son lit, s'excusant d'être si patraque et de ne pouvoir faire les honneurs de chez elle. On était revenu silencieusement près de la table, couverte des débris du repas, et le père, par politesse, insistait encore pour faire boire ses voisines. Brusquement, la porte s'ouvrit. Favre, très allumé, parut sur le seuil, brandissant son chapeau, la voix enrouée.
« Vive le tarif ! » cria-t-il. « Vive le père Jacquemin et la compagnie !»
Les femmes le regardaient, très gênées. Marius lui fit signe de ne pas faire de bruit.
« Excusez, » reprit-il la langue embarrassée. « Mais je viens de chez Brenzner et je suis un peu rigolo. »
Eugène et Rose retenaient des éclats de rire.
« Allons, tais-toi et viens trinquer, » lui dit le père.
Favre remit son chapeau, s'assit à califourchon sur la chaise de la mère et, après avoir vidé d'un trait un verre de vin blanc,
« Père Jacquemin, » reprit-il avec un accès de gaieté. « Vous ne savez pas. Les fabricants vont démonter leur métier à cause du tarif. C'est Brezner qui l'a dit. C'est rigolo, hein ?»
Démonter les métiers. Tous se regardèrent, impressionnés, la mine longue. Le père se leva et, prenant par le bras son camarade, « Favre, dit-il, tu as bu un coup de trop. Tu ne sais pas ce que tu dis. Va te coucher, mon brave. Allons, va-t'en. » Et, rouvrant la porte, il le poussa sur le carré.
« Oui, vous avez raison,
répondit Favre subitement lugubre. « J'ai trop bu. Mais ça ne fait rien. Brezner l'a dit. C'est pas de la blague. »
Tandis qu'il descendait d'un pas mal assuré dans l'escalier humide, le père tenant la lampe, des clameurs s'élevèrent au dehors. Les danseurs du jardin des plantes, filles et garçons, bras dessus, bras dessous, clarinettes et violons en tête, passaient au milieu des cris de la foule et du bruit assourdissant des pétards. Les Jacquemins et leurs invités avaient couru aux fenêtres et regardaient avidement, leurs visages s'éclairant aux lueurs rouges et vacillantes des lampions. Et dans l'alcôve, assise sur son lit, la tête fendue par le vacarme et le cœur aux lèvres, la mère répétait, se parlant à elle-même : « Mon Dieu, que je suis donc patraque !»